Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, bonjour mesdames, messieurs. Eh bien, nous allons reprendre donc au cours de cette heure l'examen du Yasna 56, celui où le dieu Srausha fait son intrusion dans le sacrifice du Yasna. Je vous rappellerai que la dernière fois, nous nous sommes attardés surtout à cette phrase d'introduction qui exige la présence de l'attention aux sonorités du rite. Et nous avons fait à cette occasion un peu quelques recherches sur le fond indo-iranien de ce genre d'exhortation. Alors, si vous le voulez bien, nous allons aujourd'hui examiner la structure que ce texte accorde à ce qu'il considère comme l'acte du sacrifice, puisque dans les trois strophes, qui comportent un élément informatif, hein, sans tenir compte des répétitions, la strophe 4 est une répétition parce que la strophe 3 est trop longue pour qu'on la répète immédiatement. Donc il y a, semble-t-il, un volet sacrificiel qui se répartit sur trois strophes. Alors, je vous rappelle aussi que ce texte n'avait pas suscité une grande attention avant ces dernières années. Si le livre de Crayenbrook, paru en 1945, est consacré au dieu Srausha, le traite de manière relativement marginal. C'est simplement l'impression que nous avons acquis lentement, que l'on pouvait peut-être dans ce texte découvrir quelques citations vieilles avestiques qui a modifié l'attitude des chercheurs à son égard. Et je vous rappelle l'article de Pirard dans les Münchener Studien zur Sprachwissenschaft de 1991. Puis, je vous en ai parlé plus tard, sa réfutation par Tremblay, qui propose de remplacer la notion d'incipit, car selon Pirard, toutes les propositions latives que nous avons dans ce texte seraient les premiers mots de textes vieilles avestiques perdus. Tremblay préfère que l'on parle de citation. Ce n'est donc la différence, elle est légère bien sûr, hein, citation, mais ça signifie que ce ne sont pas nécessairement les premiers mots d'un texte, c'est tout. Et Tremblay considère ces relatives avec beaucoup plus de nuances que Pirard, et peut-être avec trop de nuances, puisqu'il cherche à faire de ce texte globalement un texte vieil avestique et à réfuter la présence de citations. Alors, comment se présente ce texte ? Donc, l'on demande que l'on prête l'écoute, que l'on prête l'audition à un certain nombre de yasna, yasnaï, datif singulier du mot. Le premier, nous l'avons déjà commenté, hein, à tout seigneur, tout honneur, bien entendu, le grand dieu du panthéon, Ahura Mazda, qui est très puissant, ce Vishtahe, et qui est Ashavan, son rapport avec l'ordre, l'harmonie du monde, avec Asha. Et je vous signalais d'ailleurs que nous tenions là l'indice que pour ce réseau, tout au moins le réseau des génitifs qui entourent Yasnaï, ce texte est en avestique récent. Donc, dès lors, la petite relative, elle est très réduite. Yeu-nan-ishto comporte, relatif qui semble définir Ahura Mazda, on passe avec le yeu naturellement au nominatif. Nor, vous disais-je, est un trait caractéristique du vieil avestique, c'est la forme enclitique de l'accusatif du pronom de la première personne du pluriel. Et ishto, nominatif singulier, de l'adjectif passé passif ishta. Or, ishta, c'est le verbe yas, le verbe sacrifier. Et nous avons un second trait, très probablement, ce n'est pas aussi décisif que le pronom, mais un autre trait vieil avestique probable, C'est la préservation en vieil avestique du degré zéro de la racine pour construire l'adjectif passé passif. En avestique récent, on a substitué au degré zéro le degré plein yashta. Donc, deux traits qui probablement désignent la citation comme vieil avestique. Je suis d'accord avec Tremblay, c'est un texte inconnu. Connaissons pas ce texte. Ce ne se trouve pas dans les Gathas, ça ne se trouve pas dans le Yasna Haptankaiti. De surcroît, cette citation est incomplète. Il est impossible de la traduire syntaxiquement. Je dois donc traduire en suspendant le discours Ahura Mazda qui, quand il a reçu le sacrifice, adjectif passé passif, nous, il fait quelque chose à nous, hein, avec nous comme objet, mais quoi nous ne savons pas. Ce qui est perturbant, et ce qui d'ailleurs a amené l'analyse de Tremblay, la révision de Tremblay, c'est que là, dans la seconde strophe, la structure est étrangement pareille, mais aussi étrangement modifiée. Donc, il s'agit dans la seconde strophe de prêter l'attention au yasna apam banquinam, génitif pluriel, au bonzo, les bonzo. Et puis, nous avons un élément achaunam cha. Vous commencez à connaître la particule cha de coordination. Hein. Donc, il faut savoir. Ces coordonnées à quoi, n'est-ce pas? Eh bien, on peut évidemment soupçonner le texte d'avoir une grammaire devenue imparfaite, mais il est préférable de ne pas le faire, car on pourrait comprendre le sacrifice au bonzo et au fravashi, vous reconnaissez le mot fravashi, au fravashi des achavanes, de ceux qui sont donc adaptés à l'harmonie du monde. Seulement, alors que apam vanquinam est un génitif pluriel, fravashibio est un datif pluriel, il y a, après yon no ishtor, un autre datif, le datif du nom de l'urvan, d'autres datifs pluriels, datif de urvan, donc l'âme interne, l'âme qui se libère du corps à la mort. Dès lors, je serai plus enclin à m'en remettre, c'est toujours, quand on le peut, c'est toujours préférable, s'en remettre à la régularité grammaticale. C'est un sacrifice au bonzo exclusivement, et la citation d'un passage que nous ne connaissons pas commence avec Achaunam et se poursuit jusqu'à Urvaibio. Donc, oui, mais entre les deux datifs, nous trouvons yor, nominatif pluriel féminin, ça se rapporte aux os, les os qui. No, cette fois-ci, la forme avestique récente valable pour le datif, le génitif et l'accusatif du pronom enclitique. Et puis, au féminin pluriel, également ishtor, le même adjectif. Oui, vous voyez bien l'embarras où cette citation nous met. Il serait tout de même étrange que deux textes, que l'on puisse faire deux citations aussi parfaitement adaptées à deux situations aussi différentes. Je pense qu'ici, nous avons une manipulation de la première citation. C'est une manipulation de la première citation. Et nous avons la preuve que, pour cette expression, l'expression qui est pour Ahura Mazda, « yonan ishto », l'on pouvait... c'était une expression qui était assez généralement manipulée, tout simplement parce que nous avons un autre exemple. Nous avons un autre exemple de manipulation. On le trouve dans le Yash 13-152. Les H13, 152, on nous dit, cette fois-ci, on nous parle de Zarathoustra, qui n'a Ishtas Tcha. Et puis, yes, nias, tcha. Voyez comme les choses, on a transformé cette fois la forme pronominale. Ceci ne peut pas être une forme pronominale, c'est le nominatif singulier du nom de l'homme. Mais il y a jeu de mots, hein, ça se ressemble, hein, c'est une belle adaptation. L'homme qui est Ishta, à qui on a sacrifié, et alors qui est Yesnia, et à qui il faut sacrifier. Mais si nous considérons, indépendamment de toute grammaire, ceci, nous trouvons une manipulation de l'expression « yeu nan ishto », celle que nous avons ici. Alors, comment traduire cette fois-ci ? Eh bien, qu'il y ait attention au sacrifice des bonnes eaux, les bonnes eaux qui, quand elles ont reçu notre sacrifice, car le datif génitif du pronom peut être le complément d'agent d'un adjectif passé passif, donc une fois qu'elles ont reçu notre sacrifice, et alors un datif davantage, hein, au bénéfice des urvanes et des fravachis, de ceux qui respectent l'harmonie. Donc une adaptation, un modelage de la première citation vieille avestique. C'est dans la troisième strophe que tout se corse, que tout se corse. Il faut, je pense, la solution la plus simple, mais je ne vais pas faire un cours de philologie, de microphilologie lors de ce cours. Je pense que nous avons ici un exemple de cafouillage de récitation. La récitation a bafouillé à un moment donné, et je pense que le premier yasnaï, celui qui suit tout de suite, apam vanknuinam, et le vankush qui le suit, sont une anticipation fautive pour celui que l'on trouve dans la seconde partie de la strophe à l'avant-dernière ligne. Si nous supprimons ces deux mots, yasnaï vankush, tout devient régulier. Tout devient régulier. Donc, qu'il y ait attention au sacrifice des bonnes eaux, donc le sacrifice pour les bonnes eaux à nouveau. Et puis, on associe à ces eaux d'autres entités. Cherchons les particules de coordination. Oui, les eaux et cha, ameshanam spentanam. Et les immortels bienfaisants, c'est-à-dire une désignation possible des dieux du panthéon. Le problème, c'est que on entend par là, selon les strates de l'Avesta, beaucoup de choses parfois très différentes, comme nous l'avons vu il y a 2 ans. Dès lors, lorsque dans un texte avestique de ce type-ci, qui semble un texte d'exégèse, on ne connaît pas bien les limites de l'expression. On ne sait pas où il faut situer la limite où s'arrête la sélection des divinités qui peuvent répondre à ce titre. Donc, les immortels bienfaisants, mais qui reçoivent cette désignation extrêmement fréquente, mais qui n'existe pas dans l'Avesta ancien, ou kshatra, elles ont une bonne capacité, de haute capacité, disons. Et elles sont hudangham, c'est-à-dire généreuses. Généreuses et très capables. Les ameshaspenta, généreux et très capables. Et puis, une deuxième particule de coordination, vohunam cha. Ah oui, là nous avons une coordination secondaire. Vohunam cha est coordonné à vankhinam cha, qui est le tout premier mot de la série. Il y a un désordre de mots, mais la structure de coordination permet de s'y retrouver, permet de trouver l'organisation interne de ces termes. Donc des ameshaspenta qui se distribuent en bonne et en bon. Donc la répartition de ces divinités en divinités masculines et divinités féminines. Et puis une seconde coordination, cette fois-ci à l'ensemble, et la bonne Ashi, la déesse Ashi. C'est Ashi qui porte l'arlatif, la citation. Yane araïcha, urnavataïcha, ashankhach, qui a... Aucun trait décisif du vieil avestique ne s'y manifeste. Si vous me demandiez mon avis, je ne peux vous donner qu'une impression, comme tout le monde. Mon impression est que c'est du vieil avestique. Mais c'est une impression purement littéraire. Hein. C'est, c'est, Cela sent la terminologie vieille avestique, mais ça ne veut, je connais bien la valeur exacte de cet argument, croyez-moi. Je serais enclin à considérer que nous avons effectivement une authentique citation vieille avestique, et c'est une citation qui se rapporte à Hachi et qui procède à une figura etymologica, comme on dit en rhétorique, n'est-ce pas, autour du nom d'Hachi, car la déesse Hachi, dépendamment de traits phonétiques secondaires d'ailleurs, représente un état heurti, donc une racine heur, et c'est cette même racine heur qui figure ici en coordination dans les deux formes verbales, araïcha, urnavataïcha, la première fois au parfait, et la seconde fois au subjonctif présent, ça veut dire la bonne hachi. Hachi, c'est envoyé, envoyé, qui nous a été envoyé et qui nous sera envoyé, envoyé. Très typique aussi de la rhétorique vieille avestique, peut-être, n'est-ce pas, que cette tendance à distribuer le temps entre passé, présent, futur. Ici, le présent manque, mais peut-être est-il représenté par la... par le nom de la déesse elle-même, le fait d'envoyer. Cette déesse Hachi fera d'ailleurs l'objet de notre prochain cours parce que son association à Saoucha et son intrusion dans le Yasna pose aussi un problème intéressant. Et elle est Ashankhach, elle est compagne d'achat. Compagne d'achat. C'est un terme qui nous retrouvons dans le Yasna Abdankaiti, et que nous ne trouvons pas dans l'Avesta récent. Vous voyez, il y a quand même un certain nombre de signaux vieil avestiques dans cette citation. Donc, la déesse Hachi, qui nous a été envoyée et qui nous le sera, elle, la compagne d'Acha. Et puis, un troisième sacrifice, toujours aux bonnes eaux, hein, dans la phrase, qu'il y ait attention au sacrifice des eaux, et cette fois, la citation ne mentionne, n'est pas une proposition relative, mais mentionne au nominatif singulier, simplement, nominatif singulier masculin, fankush. Nominatif singulier est l'adjectif qui signifie bon. Oui, le bon. Bon. Et puis, achivore. Il est tentant, bien sûr, de reconnaître ici l'adjectif achivant, celui qui accompagne Hachi, celui qui est pourvu d'Hachi, littéralement le compagnon d'Hachi, qui est un adjectif utilisé exclusivement pour le dieu Saoucha. Vankush est une épithète possible de Saoucha, achivant est une épithète exclusive de Saoucha. Visiblement, on veut faire allusion au dieu Saoucha, mais peut-être en dépit d'une ruse ou d'un malentendu. Ce nominatif singulier-là n'est pas régulier. Le nominatif singulier serait simplement Achiva, avec A long ou bref, selon que l'on pratique l'orthographe vieille avestique ou l'orthographe avestique récente. Peut-être y a-t-il ici une ruse, un malentendu, je ne sais pas, mais une forme achivore régulière, celle-là, se trouve quelque part dans les gathas, et c'est le génitif duel du nom d'Hachi. Génitif duel du nom d'Hachi. Les deux Hachi, hein, les deux récompenses, les deux envois. Ici, il faut laisser pas vous, ça. Nous ne disposons pas de suffisamment d'indices pour voir de quelle manière l'exégète, c'est un texte d'exégèse, hein, ces manipulations de citations, ces transformations d'expression, c'est en soi une exégèse. Nous ne connaissons pas la manière dont il a travaillé. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire à faire cette énumération? Qu'a-t-il voulu dire? Eh bien, combien de sacrifices nous présente-t-il? Celui d'Ahura Mazda, ça ne vaut même pas un commentaire. Le Yasna est un sacrifice principalement pour Ahura Mazda. Ensuite, deux sacrifices aux bonnes eaux. Plutôt, trois sacrifices aux bonnes eaux. Un dans la strophe 2 et ce sont les eaux seules, sacrifices aux eaux. Dans la strophe 3, deux autres sacrifices aux bonnes eaux, mais cette fois associés. Dans le premier cas, au dieu dit immortel bienfaisant, réparti entre les masculines et féminines, divinités masculines et féminines, en plus la déesse Achi. Troisième sacrifice, aux bonnes eaux exclusivement, mais la citation évoque la figure du dieu Srausha. Alors, quel est le sens de tout cela? Il ne va pas de soi, mais je crois que Tremblay a, d'une certaine façon, raison. Mon désaccord avec lui ne porte que sur des détails. Le yasna haptankriti est un sacrifice. Son volet central, les yasna 37, 38 et 39, font l'énumération des divinités qui sont prises en compte. Je vous rappelle, le yasna haptankriti va de 35 à 41. Il y a deux chapitres de préliminaires. Vous voyez, il y a aussi deux chapitres de conclusion. Mais le sacrifice proprement dit, le texte en Yasamaïdé se répartit sur les trois chapitres centraux. Bon, eh bien, 37, Ahura Mazda, un très long développement qui incontestablement donne la vedette à la personnalité d'Ahura Mazda. Et puis, six entités. Leur personnalité nous importe peu ici. Six entités. Bon, c'est, entre autres, vous savez, c'est Asha, bon, l'ordre du monde, la bonne pensée, Vohumana, Kshatra, le pouvoir, puis Armaïti. Donc, les quatre entités traditionnelles, les quatre principales du panthéon des Amushaspenta. Mais ce sont des entités abstraites. Ce sont ces entités que je vous définis toujours comme des entités métonymiques de la personne pensante, des allégories abstraites métonymiques de la personne pensante. L'ordre du monde, ça c'est cosmique plutôt, mais la bonne pensée, la capacité, la pensée irrespectueuse, ce sont des aspects de la dévotion humaine et de la pensée. Yasna 38, un début massif, un long développement. Donc la pratique qui prévalait pour Ahura Mazda se reproduit dans l'Yasna 38. Ce sont les eaux, ce qui a toujours laissé perplexe un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas pourquoi la grande divinité et ses abstractions brutalement sont flanquées comme cela d'un sacrifice aux eaux. C'est très simple, c'est que les eaux sont les épouses d'Ahura Mazda. D'ailleurs, le texte le dit explicitement, et certains d'entre vous étaient peut-être présents il y a quand même déjà maintenant quelques années, lorsque Almut Hinz, ici même, nous, parlant du Yasna Hamtankaiti, nous avait dit: oh mon Dieu, je ne veux pas expliquer ce schéma sacrificiel. Et je lui avais dit que pour ma part, j'étais tout à fait prêt à spéculer et que je considérais que le Yasna Haptankriti était un sacrifice pour Ahura Mazda et ses épouses. Mais c'est une conclusion qui ne passe pas facilement. Alors, avec les eaux, surviennent aussi un certain nombre d'entités. Étant donné que certaines ne se reproduisent plus par ailleurs, ne sont plus mentionnées par ailleurs, je ne les ai pas dénombrés. Mais l'une d'entre elles est Achi. L'une d'entre elles est Achi. Figure ici. Oui, alors, le Yasna 39. Le Yasna 39 commence par rendre le sacrifice, par appliquer un Yasamaïdé à certaines entités qui sont plutôt des entités psychologique, les âmes, par exemple. Nous avons le sacrifice rendu aux âmes, aux urvanes. Les urvanes des hommes, mais celles aussi des animaux, car ce texte nous apprend que, à l'époque du Yasna Haptankriti, en tout cas, les animaux pouvaient être conçus comme possesseur, détenteur d'une âme interne. Et puis, puisque nous sommes à la fin, procède à la récapitulation. Et alors vient le terme générique. Tout ça, toutes les divinités qui viennent d'être mentionnées, Ahura Mazda, bien sûr, ses six compagnons, mais aussi les eaux, et aussi Ashi, ce sont les Ameshaspenta. Ce sont des Ameshaspenta. Et le texte du Yasna Imtankhaiti insiste, c'est le modèle, n'est-ce pas, pour lequel l'Avesta récent, ici bien sûr, mais aussi très souvent dans d'autres formulations, fera toujours la répartition entre Ameshaspenta masculin et Ameshaspenta féminin. Parce que le texte le fait, parce que le Yasna Imtankhaiti le fait explicitement. Donc, récapitulatif, les Ameshaspenta répartis en entité féminine et en entité masculine, ce qui correspond à la réalité, puisqu'on a d'une part Ahura Mazda ou les Urvanes, par exemple, sont des entités masculines, et puis alors massivement l'ensemble des eaux et des compagnes des eaux, des épouses d'Ahura Mazda. Alors, voilà, l'idée de Tremblay, qui est aussi la mienne, c'est que ce texte, d'une manière peut-être vague, d'une manière peut-être détournée, fait allusion au Yasna Haptankaiti, fait allusion à la structure sacrificielle du Yasna Haptankaiti. C'est un renvoi, à nouveau, à ce moment qui semble pourvu d'une certaine importance et que nous sommes en train d'essayer de dégager, qui est la répétition du Yasna Haptankaiti. La répétition du Yasna Haptankaiti entre l'avant-dernière et la dernière gatha. Cet endroit où se passe quelque chose d'important et qui est défini comme la destruction de l'obstacle, le Vrtakna. C'est la structure sacrificielle du Yasna Haptankaiti, je crois, se lit ici. Mais ce texte est tellement répétitif, il possède aussi, il n'est pas très long, n'est-ce pas ? Il nous manquons un peu d'indices pour saisir peut-être la réalité conceptuelle qui a motivé l'auteur de ce texte, de ce collage, pour évoquer ici non seulement le Yasna Haptankaiti, mais de l'illustrer, d'illustrer ces moments sacrificiels du vieux texte par des citations prises ailleurs. Et nous ne savons pas où, puisque nous ne les avons pas. Alors, je voudrais conclure, parce que nous avons l'évocation du Yasna Haptankaiti, mais elle s'achève par deux mots énigmatiques qui échappent à la structure des propositions relatives et qui semblent une allusion au dieu Srausha, dont le Yasht, le long Yasna, va suivre dans le chapitre suivant. Alors, appliquons maintenant en conclusion sur le Yasna 56, si vous le voulez bien, la grille de lecture que nous avons établie dans les premières leçons de ce cycle. Y a-t-il un renvoi en écho, un envoi en écho? Certainement, puisque le texte le dit lui-même. N'oublions pas, je ne l'ai plus commenté, mais les répétitions de chaque phrase se justifient par l'expression, elle aussi probablement vieille avestique, yat paovim tat ustamam chit. Ce qui est au début est à la fin. Ce qui est au début est à la fin. Cela justifie la répétition interne, mais peut-être aussi renvoie probablement à une opération qui a déjà eu lieu. Oui, eh bien, cette expression, mais la première strophe seulement, a été mentionnée, effectivement. Et on peut considérer qu'il s'agit d'un aspect de ce paurvim, de ce début. C'est dans le Yasna 15, c'est la citation, le Yasna 15.3. Le Yasna 15.3. N'oublions pas que nous sommes là tout au début de la phase sacrificielle où les officiants peuvent s'adresser directement aux divinités. Ils viennent de le faire dans l'Yasna 14, qui ne comporte qu'une strophe. Ils lancent l'invitation sacrificielle, Asba, selon la terminologie du rite. Asba, ça c'est l'Yasna 15.1. Eh bien, après avoir s'être présenté comme apte à parler aux dieux, après avoir lancé l'invitation sacrificielle, c'est la première strophe ici que l'on trouve, la première strophe de ce texte. Alors, il ne faut pas oublier non plus, je ne sais pas si c'est un second aspect du power vim, n'oublions pas ce que nous avons aussi pu dégager lors de la leçon dernière, quelque chose d'approchant, une clausule qui faisait probablement partie du vieux texte d'exhortation sacrificielle, se retrouve directement avant le début de l'Avesta ancien, dans le Yasna 27.6. Srausho yoitoa astu. Directement dans les ultimes préambules qui précèdent la récitation de l'Avesta ancien, dans le Yasna 27.6. Oui, alors, pour être exhaustif, je signalerai, mais c'est beaucoup moins important, que la strophe, en tout cas la strophe 1, est répétée à trois reprises entre le Yasna 15 et le Yasna 56 dans les intercalations du Visprat. Donc, pas dans le Yasna lui-même, il n'y a pas d'autres citations, mais dans les intercalations du Visprat, où là, réellement, le Yasna 56 sert de ponctuation régulière, puisqu'on le trouve avant la récitation des gathas, au milieu de la récitation des gathas et après la récitation des gathas. Donc, cela pour leur renvoi en écho. Alors, y a-t-il un effet d'anticipation ? Y a-t-il une annonce programmatique ? Oui, sans aucun doute. La grande annonce programmatique, elle se situe dans les tout derniers mots, Vankush Ashivor. Nous allons continuer à parler du dieu Srausha. Voilà le programme, c'est le programme que se fixe le texte. Nous allons parler du dieu Srausha. Et aussi peut-être, avec l'insistance portée sur les eaux, et c'est un texte qui annonce plus lointainement tout le long texte, plusieurs chapitres, entre le Yasna 63 et le Yasna 68, et que l'on appelle l'Abzor, c'est-à-dire le texte du moment de la libation aux eaux. Peut-être faut-il voir ici l'annonce d'un moment sacrificiel consacré à Srausha, mais aussi aux eaux. En ce sens, il s'agit évidemment d'un texte de transition, mais qui est précieux pour nous, qui est précieux parce qu'il nous, nous livre du matériel vieil avestique inconnu. Et il nous permet une petite plongée dans la vieille idéologie indo-iranienne du sacrifice. Pour un texte aussi court et qui procède d'une manière aussi détournée, n'est-ce pas, avec une volonté que nous ne pouvons pas toujours élucider, ça n'est pas mal du tout. Bien, alors nous allons abandonner notre Yasna 56 et nous allons en venir au Yasna 57, qui est un yasht, qui est ce que l'on appelle dans la terminologie moyenne iranienne, un yasht. Je vous le rappelle, le mot yasht est tout simple, c'est un dérivé. C'est un dérivé du verbe yas, sacrifier, mais c'est la traduction moyenne iranienne régulière. Il y en a d'autres, mais moins naturelles. C'est la traduction naturelle du mot yasta. Il s'agit donc d'un sacrifice, et puisqu'il s'agit d'un texte, je dirais, un hymne sacrificiel. Or, nous le lisons au séminaire d'ailleurs, et je m'excuse auprès des membres du séminaire si je répète, mais en quelques mots seulement, ce que j'ai déjà expliqué. C'est un yasht qui, contrairement aux autres, est inséré dans l'yasna. Il bénéficie donc de la bonne transmission relative du yasna. Le yasna est beaucoup mieux transmis que les yashts. À cet égard, il est très intéressant pour nous. Il a d'autres traits, toutefois. C'est un vrai yasht. Ceux d'entre vous qui ont lu le texte au Fravashi avec moi, mais j'y ai fait allusion au cours, savent que le genre yasna, le genre yasht, n'est pas toujours respecté dans la nature du texte. Parfois, on passe à d'autres genres. Comme les interrogatoires, nous l'avons vu dans le texte au Fravashi assez fréquemment, mais aussi à d'autres types de littérature. Or, le Srausha yasht qui est préservé par le Yasna 57 est un yasht homogène. Il répond à un genre qui peut être défini très simplement et dont on remarque immédiatement la structure. La structure, elle consiste à aligner comme objet de Yasamaïdé, nous sacrifions. Hein, parce que, toujours dit, hein, un sacrifice, c'est dire Yasamaïdé. C'est tout, rien d'autre dans ma tête. Hein. C'est cela qui nous échappe. Pas, c'est cela qui nous, que, plutôt qui échappe au texte et que nous percevons. C'est, pas, c'est la déclaration de volonté sacrificielle, Yasamaïdé, nous sacrifions. Eh bien, ce Yasamaïdé aura pour objet une série, le nom du Dieu, bien sûr, mais pourvu d'une série d'épithètes. C'est important, cette série épithétique, parce que c'est là que les particularités différentielles de la divinité se manifestent. Oh, une épithète divine, dans la littérature indo-iranienne en général, c'est vrai pour le védique, mais c'est vrai aussi pour, et vrai pour la vestique, n'est-ce pas rien n'est plus communément partagé par les divinités du Panthéon. À peu près toutes les divinités peuvent recevoir les mêmes caractéristiques. Mais c'est autre chose que de l'avoir dans la formule de base de son Yasht. Hein. Ça, là, ça diffère toujours et ça, classe, peut-être, ça classe peut-être la possibilité pour l'épithète de définir au mieux la personnalité du Dieu. Il y a donc, je reviens à la structure maintenant. Bien, cette série épithétique, le nom de la divinité objet de Yasamaïdé, puis un développement original qui caractérise chaque chapitre du Yasht et qui est introduit par une proposition relative. Nous sacrifions à Saoucha qui ? Et alors, on raconte une petite histoire. Bon. Et puis, une strophe conclusive où le Yasamaïdé initial est transposé à la première personne du singulier, Yazai, je sacrifie. Donc nous sacrifions Asraucha, puis je sacrifie. Ça, ce n'est pas indifférent. Il y a une alternance dont nous ne comprenons pas bien la motivation conceptuelle entre le pluriel et le singulier. Donc la structure du Yasht est extrêmement reconnaissable. Une autre curiosité, ce Yasht, on l'attend, hein, on l'attendait pour aussi nous donner une autre information. Qu'en est-il de sa structure métrique ? Puisque, vous savez, c'était il y a 2 ou 3 ans que nous avons parlé de métrique. Vous savez, la situation inextricable dans laquelle nous nous trouvons avec la métrique de l'Avesta récent, où nos conclusions n'ont pas changé pendant plus d'un siècle, depuis la vieille étude de Geltner, qui était alors, il n'avait pas encore entrepris d'éditer l'Avesta à cette époque, c'est une œuvre de jeunesse, c'était dans les années 75 du 19e siècle. Et bon, il y a beaucoup d'octosyllabes. Il y a beaucoup d'octosyllabes dans les Yasht. Mais cette mesure métrique n'est pas parfaitement respectée. Elle est même très imparfaite. Donc, d'une part, nous devons accepter qu'il y ait un fond métrique, un fond octosyllabique. Oh, c'est le maître le plus facile. Les 11 syllabes, c'est le maître le plus facile. Il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a rien d'autre dans la structure métrique, ni accentuation, ni quantité vocalique. C'est étrangement, dans le contexte indo-européen ancien, nous avons peut-être ici une métrique indo-européenne essentiellement syllabique. C'est surprenant, mais on n'a jamais rien pu dégager d'autre. Bon. Donc, octosyllabes. Alors, les octosyllabes, dans ce recherche, c'est la même chose. Ils sont dispersés. Il y en a beaucoup, mais dispersés et très souvent trahis par des passages qui, brutalement, ne sont plus soumis à aucune régularité isométrique. Bien. Alors, je crois qu'il ne faut pas... Je crois qu'on ne va pas arriver à un résultat grandiose en adoptant deux attitudes extrêmes. La première serait qu'il faut s'efforcer de rétablir la version octosyllabique. C'est ce qu'a fait Geltner dans sa jeunesse. C'est ce que d'autres ont fait. Ça signifie, voyez ce que cela signifie, c'est terrible. C'est réécrire le texte. Hein. C'est réécrire le texte. Ah ben oui, il faut procéder par des suppressions de mots, au contraire des insertions de mots. Il n'est donc pas possible c'est extrêmement embarrassant. L'autre attitude extrême consiste évidemment à nier l'existence d'une métrique, car l'octosyllabe, comme je vous le disais, est un maître tellement usuel que l'on pourrait éventuellement accuser le hasard. Ça n'est pas possible, le hasard est exclu. Le nombre d'octosyllabes est trop grand. Alors, je crois qu'il faut simplement voir les choses de cette manière. C'est que les yachts, tels que nous les possédons, exploitent un fond de littérature octosyllabique, mais aussi autre chose. Donc, ils le mêlent sans que ça embarrasse leur compilateur, ou plutôt le semi-auteur, je ne sais pas comment je dois dire, n'est-ce pas, qui a décidé de fondre dans un genre rhétorique bien défini que nous définissons comme yacht, hein, des éléments littéraires qu'il a repris hors d'un autre contexte. Il l'a repris, il exploite un fond octosyllabique, c'est très clair, mais il y introduit d'autres éléments. Il y introduit d'autres éléments, sans que cela l'embarrasse particulièrement. Cela, faut admettre nécessairement qu'on peut respecter le genre rhétorique sans respecter la métrique. Et incidemment, cela nous apprend que l'exigence de la régularité métrique a disparu très tôt. Alors que simplement l'unité rhétorique des yachts était encore respectée. Alors, pour nous faire une idée de la personnalité de Sraucha et des raisons de sa présence dans le Yasna, n'est-ce pas, nous disposons bien sûr de deux indices dans ce texte qui compte 34 strophes, mais 33 si l'on tient compte du fait que, contrairement aux autres yachts, la strophe de dédicace est ici la première, alors que dans les yachts, elle est cataloguée sous le chiffre zéro. C'est, je dirais, ce qui va révéler la personnalité de Sraucha, ce sont les séries épithétiques, la série épithétique de la formule de base du yacht et le récit proprement dit qu'entreprend ce texte. Il y a deux séries épithétiques, il y en a deux. Il y a la série qui se trouve dans la strophe 1, justement, celle qui est ordinairement la strophe 0, et qui correspond à cette opération qu'on appelle en moyen perse le schnouman, c'est-à-dire la dédicace. Et cela consiste à dire pour qui ce texte, cet hymne sacrificiel, a été composé. Et l'autre, c'est celle de la formule de base du yacht. Hein, donc ici, ce sera la strophe 1, la formule de base, ce sera la strophe 2. Bien. Alors, ces épithètes sont un intérêt, je vais dire, limité. Inégal. Parfois, ça ne nous apprend pas grand-chose, et parfois, au contraire, cela éveille notre attention. Dans le schnouman, d'abord, eh bien, les deux premiers sont banalement guerrières, deux épithètes banalement guerrières. Sraucha est takma, c'est-à-dire ferme, ne bouge pas au combat, ou bien il est agressif, si vous voulez, je traduirais volontiers par agressif. Hein. Alors, il est aussi d'archidrou. D'archidrou, c'est un composé. Il possède une lance, drou, hardie, à la lance hardie. Puis autre chose. Son lien avec Ahura Mazda est exprimé par l'adjectif dérivé du nom d'Ahura, Ahuwiria. C'est une désignation que les récitants du Yasna Haptankaiti se donnent volontiers, c'est-à-dire nous sommes les fidèles d'Ahura Mazda, nous sommes les dévots d'Ahura Mazda. Dévots d'Ahura Mazda, pourrait le comprendre aussi peut-être à la limite avec un sens patronymique, fils d'Ahura Mazda, ce qui est nécessairement le cas, puisque Ahura Mazda est le père universel du Panthéon. Alors, plus intéressant, mais c'est le dernier, il est Tanu Mantra. Le nom du corps, des noms possibles du corps, et Mantra, ceux d'entre vous qui offrent le mot est presque devenu français, parce que ça fait partie tellement du contexte culturel indien, le Mantra. Oui, seulement le sens du mot Mantra, ce qui est le sens de base, c'est celui de la pensée, c'est le radical de la pensée, man, hein, la pensée qui a été mise en forme poétique. Hein, c'est donc en même temps un nom du poème. Et ce balancement entre la pensée et la parole est évidemment la caractéristique de ce terme-ci. Pour en venir au plus vieux document que nous possédons du monde iranien, l'Avesta ancien, eh bien l'Avesta ancien fait un usage assez fréquent, fort comparable à celui du Veda, du mot mantra, mais sous sa forme, cette forme-ci, hein, c'est la forme iranienne régulière. D'ailleurs, Zarathoustra, qui est toujours mentionné en tête du groupe humain qui agit d'une manière ou d'une autre dans les gathas, a pour seul titre répertorié, c'est son titre permanent, il est mantran. Ce serait l'indien mantrin, mais le suffixe possessif est différent, l'indien mantrin. Celui, c'est toujours très vague, ce type d'adjectif, celui qui possède le mantra, littéralement. Donc, c'est un sens qui paraît encore relativement védique, entre guillemets, hein, dans l'Avesta ancien. Mais notre problème, c'est l'Avesta récent, où nous ne savons pas avec précision ce qu'on entend par mantra. Nous ne pouvons pas repérer un genre littéraire qui correspondrait. Parfois, on a bien l'impression que cela désigne un texte bien précis, mais nous ne voyons pas trop bien lequel. Il y a quelques probabilités pour que l'expression spanta, mantra spanta, mantra spanta, le mantra bienfaisant, soit une désignation de l'Avesta ancien, mais ça reste malgré tout très vague. Donc, il y a souvent référence à un texte bien particulier par le mot mantra, et son identification ne nous est pas donnée immédiatement. Alors, lorsqu'on dit de Srausha, il est Tanu mantra, qu'il a le mantra pour corps, c'est très intéressant. On dit ça d'autre que de lui. Le hotar, le zautar en général, le zautar du sacrifice banal en cours, et lui aussi Tanu mantra. Donc, ce n'est pas propre à Srausha. Mais le fait significatif, c'est que ce soit un terme de sa série épithétique générale, de sa série épithétique particulière dans le mot du Shnuman. Naturellement, nous pouvons comprendre, ce n'est pas très difficile à comprendre. On voit bien que ce dieu des sonorités en général, hein, ce dieu de la récitation des textes, bien, c'est une caractéristique qui est quasi naturelle, qui va de pair avec sa personnalité. Ensuite, les épithètes de Srausha, objet de Yazamaïdé, sont différents. Pour faire d'ailleurs un petit excursus métrique, c'est toujours le cas et l'on peut soupçonner que cela a des causes métriques, n'est-ce pas ? Car les épithètes de Shnuman sont au génitif et les épithètes de la formule de base sont à l'accusatif. Un génitif, c'est de manière générale une syllabe de plus qu'un accusatif. Donc, il y a des raisons qui sont des raisons purement littéraires de manipuler les épithètes. Mais en tout cas, les deux séries sont bien distinctes. Oui, alors, d'abord, il est Ashia. C'est un adjectif qui consacre son rapport avec la déesse Ashi. Il est compagnon d'Ashi, de la déesse Ashi. Ça, nous en avons déjà peut-être une allusion dans le Yasna 56. Je ne vais pas commenter cela aujourd'hui. Je réserverai l'examen de ce fait particulier au cours que nous ferons sur cette déesse Ashi. Mais ici encore, une chose que nous pouvons dire d'emblée, c'est que nous avons un nouvel exemple peut-être de spéculation sur le texte vieil avestique. Le Yasna 43-12, si vous voulez bien me projeter. Merci. Voici Srausha, le nom Srausha, je ne parle pas du dieu, est attesté 7 fois dans les gathas. Voilà. afin que vous ne soyez pas vous donner des traductions qui ne sont jamais faciles pour les textes vieillavestiques, je l'ai donné immédiatement sur la feuille. Je ne la garantis plus, c'est la mienne et celle d'Éric Pirard, mais c'est indicatif. Hein, c'est indicatif. En 20 ans, certaines choses changent. Mais il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas de grosse faute. Hein, c'est pas de grosse faute de toute façon. Enfin, de toute façon, c'est légitime, disons. Je traduisais encore, comme vous le voyez, Straucha par obéissance. Hein, je traduisais encore par obéissance, je ne le ferai plus. Enfin. Et je traduisais Hachi par octroi. Vous voyez, l'obéissance, Raucho, avec l'octroi, associé à l'octroi. Associé, c'est Hachimno, accompagné de Hachi, accompagné d'Hachi, de l'octroi, qui confère la richesse. Ça, c'est le sens de Manzaraya. Oui, alors, c'est une spéculation sur ce texte. Il est ennuyeux, ce texte, vous savez. Il y a quelque chose qui est très indigeste dans ce texte. Je ne sais que faire. Nous n'avons su que faire, n'est-ce pas? Mais généralement, c'est ce genre de situation où un philologue s'en tire par une petite ruse, en général. Car c'est quand même gênant. Regardez la traduction, évidemment, le gomme. Hein, c'est ça, la ruse de traduction. Mais Hachi est prolongé par une proposition relative. Donc, Hachi, accompagné d'Hachi, qui y a, qui donne, qui répartit Vidayat, qui répartit les Hachi. Sujet et objet se confondent. Mais le nom d'Hachi est maintenant au pluriel. Alors, je l'ai traduit par les envois, pas envoyer ceux qui en ont, bien sûr. Un sens possible de la racine « ar ». Mais je vous signale cette petite bizarrerie parce qu'elle n'est pas indifférente. Elle n'est pas indifférente et lorsque nous pensons que l'association d'une divinité qui s'appelle Sraucha et d'une divinité qui s'appelle Hachi pourrait avoir sa source dans une spéculation sur ces textes. Parce que nous avons, pas une citation, mais une adaptation de ce texte. C'est dans l'Yasna 27.6, dont nous avons déjà parlé. Le Yasna 27.6 donne une adaptation de ce vers et où Sraucha devient Yo, Sraucha, qui, Achahé, génitif singulier du nom d'Acha, l'harmonie, l'ordre, l'agencement du monde, Hachaïté, voilà ce que nous avons sous forme pronominale, Hachimno, maintenant le verbe est personnel, Hachaïté, et puis vient Manzaraya. Mais Manzaraya, on ne voit plus très bien, on ne voit plus très bien quel est son statut dans la déclinaison, quel est son statut casuel. Seulement remarquez que dans l'adaptation qui a été faite de Yasna 43.12, ce n'est pas Hachi que nous trouvons, c'est Hacha. Voici un de ces cas nouveaux, nous pouvons soupçonner une double recension. Parce que la recension que nous ne pouvons pas mettre en doute philologiquement, notre recension du Yasna 43.12 était peut-être concurrencée par autre chose. Mais naturellement, ce génitif n'est pas compréhensible, mais cela peut tenir à l'adaptation. Si nous savions l'instrumental, Hacha, ce serait tout à fait régulier avec Hachaïté, et Manzaraya pourrait s'y rapporter de façon tout à fait régulière. Alors, y a-t-il une version concurrente? Faut-il tenir compte d'une version concurrente? Ou faut-il tenir compte, c'est un autre soupçon et une autre possibilité, que le texte a été manipulé pour que le nom d'Hachi y figure? Parce que je n'aime pas du tout cette confusion entre le sujet et l'objet dans la dernière relative. Hachi qui distribue les Hachi, c'est quelque chose qui ne passe pas bien. Cela, c'est la première caractéristique de notre divinité selon la série de base du Yasht. Alors, deux épithètes lui donnent une forme au moins d'existence matérielle. il est Huraouda, il a la bonne taille, il a la bonne taille. N'oublions pas, d'après le Holmstrom, l'interprétation que nous avons faite de cette notation, c'est de l'expliquer par la référence à la taille, à l'état du corps d'un homme de 15 ans, qui est l'âge idéal selon l'idéologie de l'Avesta. Huraouda, c'est comme cela que votre corps est à l'âge de 15 ans. Huraouda, naturellement, les dieux sont immobilisés à cet âge-là. Et il est Fradat, il multiplie les êtres vivants sur la terre. Fradat Gaïta. Donc, un dieu du monde matériel, qui est lui-même, je n'ose pas dire matériel. Tout ceci, Huraouda semble impliquer qu'il a un corps. Mais le nom du corps n'est pas prononcé. Oh, je sais bien, un peu plus tard dans l'hymne, on parlera de ses bras. Mais c'est dans un passage un peu suspect qui semble transposé d'un hymne à une autre divinité. Alors, bien, certainement, il est en tout cas visible, Saoucha. La seule chose que l'on peut dire, parce que sa matérialité n'est pas explicitement exprimée. On ne dira jamais de lui qu'il est Asdvant, qui veut dire le plus explicitement du monde matériel, pourvu d'os, cela on ne le dira pas. De même, on ne dira pas ce qui est un quasi-synonyme qu'il appartient aux divinités du rang Gaïtia, c'est-à-dire ceux qui sont terrestres littéralement, mais avec un développement dans le sens de matériel. On ne le dira pas. On peut imaginer des solutions intermédiaires, mais c'est les imaginer parce qu'elles ne sont pas explicitement exprimées, d'une forme d'existence un peu subtile. Lorsque dans ce passage, mais c'est ce passage peut-être transposé d'un hymne à une autre divinité, on nous dit que ses chevaux, par exemple, les chevaux qui traînent son char dans le ciel, sont transparents, qu'ils ne font pas d'ombre. Façon peut-être d'être est-ce matériel. Je vous laisse juger selon votre sensibilité philosophique. Mais il ne faut pas s'imaginer que notre Dieu soit une statue grecque. N'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas dire qu'il a un corps matériel défini. Bon, mais il appartient au monde matériel, il appartient au monde de la matière. Il intervient, son champ d'action, c'est le monde terrestre, et le ciel qui, bien sûr, le surplombe, mais c'est son domaine d'activité. Alors, il est Vrtrajan. C'est la seule divinité mazdéenne, alors que tous les dieux sont Vrtrajan, qui le soit dans la formule de base de son yasht. Vrtrajan, on rappelle, ici nous avons l'équivalent védique exact Vrtrahan, qui est porté par beaucoup de dieux védiques aussi, mais qui est typique d'Indra et qui signifie, dans le cas indien, référence au mythe d'un dragon qui s'appelle Vrtra. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de dragon Vrtra dans la tradition mazdéenne, dans l'Avesta du moins, et Vrtrajan doit se comprendre de façon tout à fait abstraite comme le fait de détruire, de briser l'obstacle. Il est le dieu briseur d'obstacles, Sraucha, par excellence. C'est évidemment le plus significatif, n'est-ce pas, de ces épithètes, et c'est celle qui, vous pensez bien, ça ne demande pas un long commentaire, nous le ferons quand même, mais nous devons encore rassembler quelques fils, mais on peut déjà très bien deviner que c'est cette caractéristique qui le rend particulièrement adapté au moment du sacrifice où nous nous trouvons, hein, au moment du sacrifice où nous nous trouvons, qui est le moment du Vrtrakna. Le dieu Vrtrajan reçoit son hymne sacrificiel au moment du Vrtrakna. Cela, me semble-t-il, ne fait pas de doute. Et la dernière chose, cela, c'est plus énigmatique. Il est Ratu Dasha, mesure de l'harmonie, en quelque sorte. Ça, c'est un titre. C'est un titre qu'il ne partage qu'avec Ahura Mazda. Ahura Mazda est aussi un Ratu de l'agencement du monde. Donc, la mesure de l'agencement du monde. Ou bien... le cursus de l'agencement du monde. Dans le cas de l'application du moratu à une divinité, le sens exact n'est pas disponible, n'est pas immédiatement déductible du matériel que nous avons, mais c'est une caractéristique de Strausscha et d'Ahura Mazda. Et je ne peux que me poser une simple question, est-ce que ce n'est pas cette idée de cyclique qu'il y a toujours dans le mot ratu, hein, car un ratu, avant toute chose, c'est un moment du temps qui est récurrent, qui se représente, qui se reproduit, le jour, la nuit, les saisons, etc. Et c'est peut-être cette caractéristique qui veut que dans les litanies du Yasna, Strausscha soit mentionné au début et soit mentionné à la fin, encore une seconde fois. Ce qui nous rappelle, l'expression n'est plus là, mais ça nous rappelle très certainement ce qui est au début est à la fin, n'est-ce pas, de notre Yasna 56. Alors, je vais prendre congé de vous, je vous remercie, et nous ferons quelques commentaires encore sur Vrtrajan et aussi sur le Yasna 47 lors du prochain cours. Merci beaucoup. Conservez les documents que vous avez eus, s'il vous plaît, car nous devons les exploiter la prochaine fois. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.